Marche du Monde, présentée par Véronique Guémard.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. L'abolition de l'esclavage est célébrée depuis 1848 en France, mais pas le marronnage qui est la résistance à l'esclavage. En Guyane, sur le continent américain, les Noirs marrons, ou Bushinengue, ont fui les plantations du Suriname voisin, où le système colonial était particulièrement cruel pour se réfugier en forêt, le long du fleuve Maroni. À l'occasion de l'exposition « Marronnage, l'art de briser ses chaînes » à la Maison de l'Amérique latine à Paris, artiste et historien Bonny nous éclaire sur leur passé. Le 11 mai dernier, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, inaugurait cette exposition « Marronnage, l'art de briser ses chaînes ».
Il y a eu plein de formes de résistance à l'esclavage. Dès les premiers pas, les esclaves se révoltent, parfois se suicident. Et les résistances vont s'organiser dans les plantations, mais elles vont s'organiser à l'extérieur, dans le marronnage. Donc il y a des vraies sociétés qui se sont construites. Des contre-sociétés avec les traditions venues d'Afrique, avec un syncrétisme, etc. Et donc tout ça, c'est fait partie de l'histoire et souvent a été marginalisé. Donc il faut réparer cette injustice parce que ces marrons, c'est aussi la fierté de ceux qui n'ont jamais accepté leur mise en esclavage. Et donc rendre hommage à leur lutte, c'est rappeler dans l'histoire le combat des marrons.
L'exposition à Paris propose jusqu'au 24 septembre des objets présents et passés dans les sociétés du marronnage, des Bushinengue de Guyane, dont certains rappellent fortement l'Afrique, et des œuvres artistiques qu'on appelle le tembé, des sculptures, peintures ou tissages de couleurs aux formes géométriques entrelacées, représentant la beauté, l'amour ou la force du lien. Geneviève Wills est historienne avec l'anthropologue Thomas Mouzard. Elle est la co-commissaire de cette exposition sur le tembé.
Tout commence dans le port de Paramaribo au Suriname, qui n'est pas Cayenne. Le Suriname est un pays colonisé par les Anglais et les Hollandais qui savent poldériser les terres, c'est-à-dire enlever l'eau de toutes ces terres très basses. Et les Français ne savent pas faire. Donc, eux, ils ne cultivent que les terres hautes. Ce n'est pas riche en Guyane. Il n'y a pas beaucoup d'esclaves. Alors que du côté hollandais, il y a la bourse d'Amsterdam qui peut prêter l'argent pour acheter des esclaves.
On est au fin 16e, début 17e.
16e, 17e, 18e. Et au début du 19e, 1808, interdiction de la traite au Suriname. Donc, il y a... Là, on trafique encore avec les bateaux négriers français, mais il y a beaucoup moins d'arrivées d'esclaves.
1848 pour l'abolition de l'esclavage en France.
Oui, 1860 du côté des Hollandais. Et donc, une grande population d'esclaves qui va arriver régulièrement, des planteurs qui sont tous des aventuriers, qui arrivent de toute l'Europe. On leur a promis des terres, de l'argent pour acheter des esclaves et de quoi s'enrichir. On sait qu'on peut venir au Suriname et faire fortune. Les Hollandais, eux, ont tout intérêt puisque remontent de là des produits tropicaux qui valent très très cher, ce qui fait que la Hollande au XVIIIe siècle, c'est le siècle d'or, qui n'a pas son portrait fait par un grand peintre flamand à cette époque-là. Dans la bourgeoisie des villes, on a de quoi s'offrir des tableaux de maîtres. C'est pas du tout le même niveau d'enrichissement colonial. Et alors les esclaves qui arrivent là vont mener une vie épouvantable à nettoyer les canaux pour que l'eau circule, vous imaginez, dans la boue et l'eau en permanence, cultiver la canne à sucre, débroussailler les terres qu'on a données aux planteurs. Enfin, c'est une vie horrible. Les plantations sont toutes ouvertes sur un fleuve parce que c'est l'axe de circulation. Et le fond de la plantation, c'est un énorme rectangle, et le fond de la plantation, c'est la forêt amazonienne. Et c'est là l'explication du nombre d'esclaves qui se sont sauvés. La dureté, la violence, la cruauté des planteurs qui n'en ont rien à faire de leurs esclaves, qui savent qu'ils en auront d'autres si ceux-là meurent, il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils produisent au péril de leur vie, et la situation géographique qui est la possibilité de se sauver dans la forêt. Alors c'est facile de mettre un pas hors de la plantation et d'être dans la forêt, bien plus difficile d'y survivre. Mais au bout d'un moment, ils constituent des petits groupes, ils s'entraident, ils cultivent la terre et ils viennent rechercher auprès des plantations qu'ils connaissent. Ils viennent faire des rapts de femmes, des vols de matériaux, en particulier de fer, etc. Et voilà comment ces nations, ces différents groupes survivent dans la forêt.
Plusieurs communautés de Noirs-Marrons vont se constituer dans la forêt. Boni, Aluku, Djuka, Saamaka, Paamaka, Matawai, Quinti. Pour raconter la suite de l'histoire, nous avons pu joindre Jean Moumou, qui enseigne à l'Université des Antilles. Jean Moumou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, maître de conférences en histoire à l'Université des Antilles. Vous êtes vous-même Boni, du nom d'un grand guerrier noir-marron qui a tenu tête aux Hollandais. Vous êtes originaire de Bonnyville, un village noir-marron sur les rives du fleuve Maroni qui sépare donc la Guyane du Suriname voisin. Alors, racontez-nous qui sont vos ancêtres, ceux qu'on appelle donc les noirs-marrons. Les Boni qui se sont donc installés dans la forêt.
Alors effectivement, les Boni s'inscrivent dans le nom générique de ce qu'on appelle les Bushinengue, les Bushnegro, c'est-à-dire des descendants marrons du Suriname. Et ces populations, ces esclavisés au départ, ont résisté aux colonisateurs hollandais et ont constitué des sociétés en marge du monde colonial, en Amérique, dans le monde amazonien. Mais c'est à l'issue du marronnage, du grand marronnage, au Suriname, en gros dès 1712, le phénomène prend de l'ampleur, mais antérieurement, à la fin du XVIIe siècle, 1690, on avait déjà des traces du marronnage et ce noyau initial, d'autres esclavisés vont les agrandir. Mais il y a eu des circonstances qui ont favorisé l'ampleur du phénomène. C'est par exemple lorsque l'amiral Cassard, c'est un Français, décide d'envahir le Suriname et en guise de rançon demande l'impôt de capitation, c'est-à-dire l'impôt par tête d'esclave. Et donc comme ils avaient l'habitude d'envoyer les esclaves, les esclaviser avec tout de même leur jardin, donc on leur a dit retournez dans les jardins et puis comme ça après on va vous faire revenir. Eh bien, ceux qui sont partis ne vont plus revenir en tout cas. Et lorsque les Hollandais contre-attaquent pour récupérer ces marrons-là, et là il y a de la résistance, c'est-à-dire combats armés, des troupes coloniales, et les marrons se sont organisés pour pouvoir lutter contre l'armée coloniale hollandaise. Et du coup, certains ont réussi à conclure un traité de paix avec les Hollandais, notamment les Djuka en 1760, mais aussi les Saamaka en 1762, tandis d'autres groupes, non. Parmi ces autres groupes, ce sont les Boni. Et là, c'est une véritable guerre qui commence entre 1765 jusqu'à 1776, en quelque sorte, puisque les Boni vont traverser le Maroni et s'installer en Guyane française.
Alors justement, parmi les grands guerriers, il y a Boni lui-même qui donnera donc son nom à la communauté. Qui était Boni?
La mère de Boni avait un mari qui s'appelait Aluku. Monsieur Aluku, qui était un des premiers à fonder le groupe qui va prendre le nom du nouveau chef qui est Boni, eh bien, c'était son beau-père. Et du coup, vous voyez, Boni est né en forêt, il connaît les moindres recoins de cet espace forestier, et en grandissant, il constate que non, il faut conduire justement ces peuples-là, ce petit groupe-là, ce noyau-là, à la liberté. Et à partir de là, ils vont aller chercher dans les plantations d'autres esclavisés, ceux qui veulent, parce que tout le monde ne voulait pas s'enfuir, survivre dans cet enfer vert, c'est pas évident. Mais en même temps, il y a d'autres facteurs qui vont aider, si vous voulez, ces marrons à se constituer. C'est bien sûr la religion traditionnelle. hein, parce que il y a des éléments de l'Afrique qui étaient des esprits se manifestent dans la chez les marrons, ces esprits là existent encore. Et puis la divinité, par exemple, guerrière qu'on appelle le Kumanti. Eh bien, le Kumanti, c'est l'esprit guerrier. Eh bien, là aussi, ça confortait les marrons à lutter contre l'envahisseur. Et en même temps, même Stedman, qui a participé à cette guerre, c'est 1200 soldats à l'intérieur de la forêt du Suriname.
Donc, un commandant hollandais.
Bah, il était d'origine suisse, bah, parce que les Suisses étaient des mercenaires aussi. Hein. Stedman raconte que les marrons avaient des amulettes. Aujourd'hui encore, on a la présence, on a la trace de ces éléments qui ont permis, si vous voulez, à ces marrons de survivre au milieu forestier et au bord des fleuves, au bord des rivières.
Breakman, Jekro.
Je suis un boni, je viens du marroni. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego lukule sama fumi. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Chalanga mego lukule sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana Boni. Chalanga mego lukule sama fumi. Boni na mine, aluku na mine, bushi nenge na mine. Hey, lowe mana mine, bika chalo ina kime fibu. Hey, waka ini mifulu, I say kim.
Alors, à compter de l'abolition de l'esclavage en 1848, donc en France, et 1863 au Suriname, les Noirs marrons, donc les Bushinengués, s'installent durablement. Et comment se passe la cohabitation avec les Amérindiens qui sont là depuis des millénaires ?
Alors souvent on ne les dit pas parce qu'il y a une fierté d'avoir une identité unique, même si je n'y crois guère. Les marrons, les sociétés marrons sont constituées d'apports multiples. Et c'est vrai, les Amérindiens qui les ont chassés aussi parce que les Hollandais les utilisaient pour les retrouver. Mais en tout cas, ce sont des groupes qui ont vécu ensemble. Par exemple, dans la culture de l'ensemble des Bushinengués, vous allez trouver la trace des cultures amérindiennes. Chez nous, les Boni, il y a le petit, ce qu'on appelle les caches sexes, qu'on appelle Koei, c'est un mot amérindien. Alors, on va dire, l'idée de porter ce cache sexe, ça vient de l'Afrique, on est d'accord, mais le nom utilisé, c'est amérindien.
Donc, qu'est-ce qu'il reste aussi d'Afrique dans ces sociétés noires marrones? Parce que qu'est-ce qu'on vous a transmis, par exemple, à vous, Jean Moumou? Il y a quand même un syncrétisme très important, puisque ces personnes qui se sont réfugiées dans la forêt venaient de pays d'Afrique très différents, avec des rites aussi.
Alors, il y a un auteur, c'est l'ingénieur géographe Jean Euro, d'ailleurs, je pense que ces photos sont présentes dans l'exposition, là, à la Maison de l'Amérique latine. Jean Euro a qualifié ces populations comment ? Des Africains de Guyane. Et il a tout à fait raison parce qu'on perçoit d'emblée la prégnance de l'Afrique dans la manière d'être, de dire, de penser chez ces populations-là. Je me rappelle, dans les années 80, j'étais encore petit, une divinité se manifestant en disant que Nasomide, Nasomide, Minawangadu Vodou Fudaome. C'est ainsi que je suis une divinité Vodou Daome. Donc, on a une présence de l'Afrique par le biais des pratiques culturelles, c'est-à-dire les rites funéraires, par exemple. Les rites funéraires qu'on va retrouver, par exemple, dans les villages de Kipangui au Congo, qu'on va retrouver aussi en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la fusion des apports culturels différents qui a forgé, a façonné les identités culturelles de ces populations. De l'Afrique encore, ce sont les anthroponymes, énormément d'anthroponymes qui rappellent l'Afrique. Bon, je peux prendre un exemple, Makele, ou Awenkina, ou Afo, ce sont des noms qui renvoient au continent africain. Et par exemple, la divinité du Popo qu'on appelle Papa Gadou, le Dagou et le serpent Python, eh ben, c'est du Bénin et du Togo. Mais pourquoi cette prégnance de l'Afrique? Cette prégnance de l'Afrique est liée aussi au fait que, dans les plantations du Suriname, c'est vrai, le système était dur, mais les esclavisés pratiquaient les cultes. J'ai trouvé des documents qui rappellent les rites funéraires à l'intérieur d'une habitation. Chose qu'on n'aurait pas, on ne peut pas imaginer quand on connaît le système. Mais finalement, à l'intérieur des habitations du Suriname, avant l'évangélisation des esclavisés, qui commence en 1819, Et en 1819, la plupart des communautés marronnes se sont constituées et sont en marge du monde colonial. Donc, ils n'ont pas eu cette influence directe comme d'autres sociétés de la christianisation, comme dans d'autres plantations. Après, oui, mais avant, non, puisque aujourd'hui encore, on retrouve cette présence de l'Afrique. Mais même au niveau de la navigation fluviale, au niveau des techniques de pêche, au niveau des techniques de chasse. Par exemple, la faune, je prends un exemple, à Zaou. L'éléphant s'appelle un zaou. Un zaou, il faut aller chercher du côté du Congo, si mes souvenirs sont bons.
Et il n'y a pas d'éléphant en Guyane.
Et il n'y a pas d'éléphant en Guyane.
Alors, je m'appelle Carlos Adaoudé, dit Kaliman, qui est mon surnom, Kaliman. Je suis artiste, peintre, sculpteur et gardien de tradition et de culture bushiningue. Mais je suis originaire de Papaichton, en Guyane française, où vit la famille, le peuple Boni. Boni de Guyane, pour ceux qui savent, parce qu'il y a aussi des Boni en Côte d'Ivoire et au Ghana. Voilà.
Donc en fait, il y a une connexion, évidemment, puisque vous êtes issu de familles de Noirs Marrons, donc des anciens esclaves qui se sont échappés, qui se sont réfugiés sur les rives du fleuve Maroni.
Voilà, parfaitement. Et cette connexion, il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a initié un projet, un programme de route des esclaves. Donc nous avons été en Côte d'Ivoire pour nous faire reconnaître par la famille. Bien sûr, nous, en tant que gardiens de tradition, on sait parfaitement de quelle lignée nous descendons.
De laquelle ?
Ben, nous descendons de la lignée de la reine Pokou. Une des dernières reines à Caen, oui, qui a fini sa vie en Côte d'Ivoire. Mais quelques-uns de ses enfants ou les enfants de sa sœur ont fini en Guyane, au Suriname et en Guyane, voilà.
Donc vous-même, c'est votre grand-mère qui vous a tout appris ?
J'ai été désigné depuis mon enfance comme gardien. Donc gardien de la tradition et de la culture, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire que tu es initié à la mémoire ancestrale. Autrement dit, ma grand-mère ou ses frères ou autres m'ont formé à garder, contrairement à ce qu'on dit que la tradition orale perd de sa valeur, ça c'est pour ceux qui sont à côté et qui essaient de transmettre, mais ceux qui gardent cette tradition ne perdent jamais rien. Donc elle m'a donné le nom de la reine Pokou, disant c'est notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, nous descendons d'elle. J'ai gardé ça en tête par rapport à nos noms aussi, aux histoires de la tradition bushiningue que nous avons gardée, de la tradition d'Afrique que nous avons gardée. Quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous l'avons prouvé en fait, que nous sommes vraiment de cette lignée-là. On a fait des échanges, moi j'étais au courant de toutes les histoires qu'ils ont racontées, des traîtres et de tout le reste, parce que des fois quand on parle des Africains qui vendaient d'autres Africains, très souvent t'en as qui te sortent, ouais mais c'est parce que les Blancs veulent te faire croire que tes ancêtres étaient méchants. Il y a eu des traîtres, et ces traîtres-là, c'est eux qui nous ont conviés en Côte d'Ivoire, qui se sont excusés de leur méfait, du méfait de leurs ancêtres, de nos ancêtres, tout simplement. Ça n'avait pas paru différent de ce que je savais de tout ça. Voilà, il y a eu la part de toute autre personne qui en a profité, toute autre culture, il n'y a pas que les Blancs, il y a aussi les Arabes qui en ont profité. Donc après, il faut parler de toutes ces choses-là si on veut vraiment mettre sur table l'histoire, quoi.
Yeah! Antillais puis antillaise, africain avec africaine. Coutez pour t'entendre, pour comprendre. L'homme cuisse et puis l'homme dit que c'est culture qui a venu par les bases, entend les nègres marron. Autant de manier, hein.
It's running away. Il parle c'est au djembe. It's running away. Il part tout net derrière pour garder. Sakini il n'y a assez vivant pas fouette colon donc assez puis ou amassé coton de nek maré il vini nek marron il prend couille et jacouille et il voyait devant.
Beaucoup de choses sont restées intactes comme le fait que nous sommes dans une société matriarcale, matrilinéaire aussi, le rang des chefs coutumiers qui sont restés tels quels, Voilà, les langues, la langue que nous utilisons chez les Aloukou, c'est un mélange de dialectes, enfin de langues africaines qui constituent cela. Mais nous avons aussi notre langue qu'on appelle le Koumansi. C'est donc l'ancienne langue que nous parlions quand nous étions en Afrique et nous le parlons encore. Tout le monde ne le parle pas. Les gardiens de la tradition ont sauvegardé et protègent et enseignent encore à d'autres à le comprendre et à le parler. Quand nous faisons nos cérémonies, on y retrouve l'Afrique immédiatement. Particulièrement au pays Boni ou encore dans certains villages, au pays Saramaka par exemple, là les gens ils vivent exactement comme en Afrique.
Alors qu'est-ce qu'on dit par exemple dans votre langue que vous avez conservée? On se sert de cette langue pour dire quoi? Si vous pouvez me donner un exemple.
Par exemple, Obla, 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 ça veut dire bonjour. Et cette façon de parler, nous disons bonjour de nos jours entre tous les jeunes de ma génération qui avons suivi cette formation. Quand nous nous rencontrons, c'est la première chose que nous nous disons. Parce que nous comptons remettre en place cette langue. C'est notre langue maternelle, comme me disait ma grand-mère. La langue Aloukou est une langue créée à base de beaucoup de langues. L'anglais et toutes les autres langues africaines qui sont autour de nous. Donc ça a créé une langue que nous appelons Aloukou Tongo. Il y a aussi chez les Djouka le Ndjouka Tongo. Pahamaka, c'est quasiment similaire à l'Aloukou. Tu as le Saamaka Tongo qui est chez les Saamaka. Et toutes ces langues-là, en fait, sont des mélanges de créoles, on va dire un créole. Mais généralement, toutes ces familles-là ou tous ces groupes ethniques ont leur langue qu'ils parlent durant des cérémonies. Nous, particulièrement, on a repris ça parce qu'on a vraiment envie de remettre à jour la culture et de la faire prospérer, et la perpétrer et permettre aux jeunes aussi de voir, contrairement à toutes les données que nous font parvenir les ethnologues, que notre culture n'est pas en perdition. Bien au contraire, il y a des gens sûrs qui sont là et qui ont été initiés à la garder, à la perpétrer.
Paris tourne nèg maré, pour y parer là, chapé en l'air, bouger nèg maron, Paris tourne nèg maré.
Carlos Adaodé est un tembéman, un artiste tembé, un art des noirs marrons qui lie donc les formes géométriques, peintes ou sculptées, couleurs et formes. Le tembé, c'est un art inspiré du marronnage, Jean Moumou?
Alors oui, c'est quelque chose de nouveau, c'est vrai, c'est marron. Dans toutes les communautés marronnes, on retrouve cet art, l'art sur bois. Mais quand on remonte plus loin, le mot tembé vient de timber, bûcheron, ou bien de timerman, l'esclave charpentier. Donc effectivement, les marrons ou les esclavisés grattaient ou dessinaient des choses sur un support bois. Et c'est ce dessin-là qui a joué un rôle au niveau du marronnage, parce que c'est avec ces éléments, ces figures, qu'on indiquait où il faut aller. Où, par exemple, le tembé qu'on appelle le Wemampachi indique le chemin du marronnage, où il faut prendre, il y a un danger par-ci, par-là. Et cet art, c'est vraiment à partir de la fin du 19e siècle et surtout début 20e que cet art va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que les sociétés marronnes du Maroni, par exemple, vont avoir les outils du monde colonial, c'est-à-dire le compas, le couteau, le sabre, des éléments qui vont se démocratiser. Mais avant, ils n'avaient pas tellement d'éléments. En dehors, même des bouteilles de verre pour casser les verres pour pouvoir dessiner sur une calebasse. Donc, c'est vraiment à partir de la fin du 19e siècle et surtout tout au long de la première moitié du 20e que cet art va prendre de l'ampleur, où la peinture va arriver. Ils vont égayer les dessins hérités des anciens grâce à la peinture. Mais il y a des éléments de l'art africain qu'on retrouve dans cet art, mais aussi des créations par rapport à l'environnement dans lequel se trouvaient ces marrons-là. La forme d'une plante, etc.
Et aujourd'hui, des artistes comme Antoine Dinguiou, Carlos Adaodé, Charlie Abakamofu, qui font ces créations, que ce soit sur toile, sur bois, sur textile, utilisent ces symboles, donc ces entrelacs, ces couleurs. L'important, c'est quoi? C'est faire quelque chose de beau, c'est ça le tembé?
Oui, moi je pense à une dimension liée à l'esthétique. Parce qu'à l'époque, quand un homme courtisait une femme, ben, l'homme devait offrir un plat vanné ou une pagaie, mais dessinée, pour montrer aussi que la vie est certes dure, La vie est difficile, mais en même temps, c'est quelque chose de beau, en fait. Donc, c'est l'émerveillement. Et Jean Huro, à travers les Africaines Guyane, reflète cet art. Mais même si je trouve aussi des traces dès le début du XXe siècle. Mais Jean Huro, c'est lui, par rapport au Boni, qui a vraiment donné une dimension à cet art-là. C'est vraiment intéressant. Et je salue le travail d'Ada Odé. Hein, je salue le travail d'Antoine Denguiou, que je connais bien, et aussi de Charlet. Parce que c'est un moyen de ne pas s'oublier, en fait. Hein, comme j'ai dit, il faut éviter le simulacre identitaire. Il faut qu'on reste soi-même, même s'il faut s'ouvrir également aux autres.
Hervé Télémaque, grand artiste peintre d'origine haïtienne, né en 1937, a parrainé l'exposition Marronnage, l'art de briser ses chaînes, à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Il avait fait un voyage sur le Maroni et avait été subjugué par la beauté de cet art, le tembé. Il parle d'homme libre.
Ce sont leurs œuvres qui m'ont bouleversé par leur sophistication. Ce qui m'a passionné aussi, c'est l'idée qu'ils n'ont jamais connu l'esclavage. C'est la particularité de la Guyane. Alors que l'esclavage chez nous, hein, aux Antilles, on l'a connu, on l'a subi, on l'a vécu. Et là, c'était cette espèce de, comment dire, sophistication artistique que je trouve chez eux, et que j'ai tendance à associer à l'absence d'esclavage. C'est des hommes libres, libres de géométrie. Ce sont des ingénieurs géométriques. Hein. Ça se rapproche du Ghana, on le sait, hein. Non, mais particulièrement du Ghana.
Antoine Denguiou, artiste peintre, sculpteur de la communauté Boni. Bon, le tembé, c'est un code qui existait déjà dans les plantations au Suriname, là où nos grands-parents se sont évadés pour les causes que vous connaissez tous. Et ce code a servi de moyen de communication dans les plantations. J'ai été élevé par mon grand-père, donc ce qui m'a permis d'apprendre et m'intéresser, parce que je suis autodidacte. J'ai regardé et j'ai fait jusqu'à ce que j'ai pris la main. Et lui, il m'a dit, écoute, les codes, c'est ça et ça. Donc, il m'a donné les tuyaux et les codes, comment l'interprétation du dessus-dessous. Et les symboles également, les motifs. Moi, j'ai retrouvé l'art tembé. Donc, mon devoir, c'est de le retransmettre afin que cette continuité puisse poursuivre jusqu'à ce que d'autres reprennent le relais.
On est sur un mur de peigne.
Geneviève Wils, co-commissaire de l'exposition.
Le peigne, c'est l'objet le plus personnel qu'un marron puisse offrir à une jeune fille. C'est le petit objet qui est l'arme absolue pour conquérir les filles. Et les garçons, donc, apprennent à sculpter de jolies choses. Et là, il y a un peigne qui est africain, au milieu de tout cela. Il y a une petite différence, et pas énorme. Sinon, dans le dessin de la partie haute du peigne, les dents sont exactement les mêmes. Ce sont toutes ces dents alignées. Voilà l'Africain, il est là.
Et donc un peigne à six dents.
Voilà, à six dents, avec une façon de le tenir. Et il part en deux directions. Il y a une espèce de fourche sur le dessus. Moi, j'ai un peigne africain du temps que j'ai vécu au Gabon. C'est un peigne camerounais. C'est pareil, j'ai les mêmes dents, la même façon de faire. Alors, une partie de ces peignes sont tellement fragiles qu'on ne peut pas s'en servir dans les cheveux. Hein. Mais ce sont des œuvres d'art. L'un des artistes qui est là, Carlos Adaoudé, dit... Ma grand-mère, toute sa formation, il l'a reçue de sa grand-mère. Ma grand-mère, le matin, elle prenait son peigne et elle le caressait. Elle réfléchissait, elle le caressait. Et c'était comme sa Madeleine de Proust. Il lui avait été offert par son premier mari. A priori, elle aurait pu ne pas continuer de s'en occuper de ce peigne-là. Elle en était à son troisième mari, dit-il. Et pour autant... Ce peigne était très important dans sa vie. Elle le caressait tous les matins. Il devait lui rappeler ses premiers émois, ses premiers plaisirs sexuels, sa jeunesse, tout simplement. Et c'était cet objet-là qu'elle touchait tous les matins. Donc, le peigne, c'est quelque chose de très important dans la société bushinégué. Et c'est très proche du travail africain.
Le peigne, est symbolique de souvenirs.
Carlos Adaoudé, artiste Tembe.
Depuis l'Afrique, l'Égypte antique, le peigne afro a toujours existé, a été sauvegardé et considéré comme un objet d'art, déjà pour commencer. Même si certains sont préfets spécialement pour se coiffer, d'autres sont là pour perpétrer la tradition de la mémoire. Donc ce souvenir de quelqu'un, ce souvenir d'un temps passé, un ancien mari, souvent c'est les hommes qui offrent le peigne à la femme. De nos jours c'est un petit peu différent, les femmes elles viennent à l'atelier, elles achètent, elles offrent à leur homme, voilà, pour le plaisir d'offrir. Parce que le peigne est mieux qu'un bouquet de fleurs, ça dure des années, des années, des années. C'était à la base de la sculpture sur bois, des objets usuels ou décoratifs. Après, c'est passé à un niveau contemporain où la peinture a pris le dessus. Donc là, on peut retrouver des tableaux sur toile ou sur bois, peintes de multicolores ou encore, comme je fais aujourd'hui, des couleurs, des bicolores, deux couleurs, une couleur, histoire de faire comprendre que nous avons un peu plus de 140 symboles géométriques rassemblés ensemble ou séparément qui constituent un langage. On appelle la poésie géométrique tout simplement le tembe.
Mais je m'appelle Shirley Abakamofou, de nationalité française, née en Guyane et d'origine bushinengue. Voilà, nous sommes dans une société matriarcale, mais après, on va dire que tout ce qui a commencé à être exposé ou sorti, après, c'est comme dans toute société. Hein. Au début, c'est l'homme qui est mis en avant, et puis après, on voit petit à petit le travail de la femme. Et plus spécialement, nous, chez nous, les Bushinengue, tout ce qui est confection de tenues traditionnelles, c'est spécialement la femme. C'est un travail de la femme.
Donc le tissage, donc la décoration, la broderie.
Voilà, la décoration, la broderie, c'est spécialement pour les femmes. On va dire les plus beaux trucs qui ont été confectionnés auparavant, c'était plutôt pour le mari. Donc c'était dans ce but-là qu'elle confectionnait une jolie tenue pour pouvoir donner à son mari, pour lui montrer l'amour qu'elle détient. C'était des moyens de transmettre aussi des messages.
Quand nos grands-parents se sont évadés des plantations, ils avaient plus contact avec le monde occidental qui fabriquait les objets auxquels on devait utiliser.
Antoine Dengyu, artiste Tembe.
Donc ils étaient livrés à eux-mêmes et à trouver des moyens de subsistance. Et les moyens de subsistance ont été les battoirs servaient de machines à laver. La pagaie et la pirogue étaient les moyens de circulation sur le fleuve, de naviguer sur le fleuve. Et tous les objets qu'on devait utiliser, c'est-à-dire le mortier, le pilon pour préparer le riz et tout ce qu'on devait utiliser, devait être trié par l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'être marié, l'oncle de famille, les parents de l'homme devaient assurer qu'il a tous les bagages nécessaires pour qu'il puisse répondre aux besoins de sa femme.
Et donc l'homme devait construire une maison, construire une pirogue, la décorer?
Oui, parce que tous les objets qui devaient être offerts à la femme devaient avoir l'esthétique et l'importance que votre femme avait. Car sur les frontons de Kerbé, par exemple, on retrouvait l'amour que l'homme pouvait apporter, qu'il avait pour sa femme.
Mais vous-même, cette histoire, comment elle vous a été transmise? Donc vous dites, votre grand-père vous a donné les codes, mais qu'est-ce qu'il vous a raconté de vos arrière-arrière-arrière-grands-parents?
Notre histoire n'est pas écrite, elle est orale, et donc cette histoire orale, quand on se déplace, on va voir les grands-parents, on va voir les adultes par respect, et poser les questions qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Et moi, je me suis intéressé à ma culture et je continue à m'intéresser à ma culture. J'aime ma culture et un homme sans culture ne vit pas.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Jean Moumou, vous êtes donc historien et originaire vous-même de Bonnyville. Quels sont les dangers auxquels les Noirs marrons sont confrontés aujourd'hui ?
Cette fierté qu'un Noir marron, qu'un Bushinengue avait d'être descendant de marron, ben aujourd'hui, je sens que ça a changé réellement parce qu'il y a aussi la culture urbaine qui se développe et dont le courant est beaucoup plus puissant que le courant du fleuve Maroni. Et du coup, effectivement, il y a danger. Donc, il y a manque, perte de repères parce qu'il n'y a pas d'élément d'identification au village. Comme à l'époque, être à l'écoute des aînés, être à l'écoute de ses parents ou être à l'écoute de ses enfants aussi. Cet équilibre-là, au niveau de la religion traditionnelle, et de plus en plus, on perd ces éléments qui consolidaient ces sociétés marronnes-là. Par exemple, la peur de tuer quelqu'un. Dans un village, dans les villages, jusqu'à une époque récente, tuer quelqu'un, tu étais considéré comme un sorcier, comme celui qui pratiquait la sorcellerie. Alors aujourd'hui, en habitant en ville, cette crainte-là a disparu. Il y a une désacralisation de la mort. Et cette désacralisation-là engendre aussi une désacralisation de la vie. Et la pas de gain, l'argent, parce qu'il faut s'intégrer en ville. Et s'intégrer en ville, il faut avoir de l'argent. Et là, ça conduit beaucoup de jeunes à ne plus tenir compte de ce qui les faisait être un homme ou une femme Bushinengue, et donc ces personnes-là vont s'appuyer sur d'autres éléments liquides, comme disait Zygmunt Bauman, la modernité liquide, tout est liquide, tout ce qui était solide est en train de disparaître.
Donc avec cet appât du gain, le trafic de drogue en particulier en Guyane, la question aussi de la montée de l'Église évangélique qui est très, très présente. Est-ce que tout ça a une influence aujourd'hui dans cette...
Si. Il y a une grande influence. Moi, je ne critique pas les confessions des Bushinengue, mais quand aujourd'hui, il y a une critique sévère à l'égard du colonialisme, etc. Les sociétés Bushinengue étaient épargnées par ces questions d'évangélisation, de christianisation. Aujourd'hui, c'est même plus l'homme blanc qui vient au village évangéliser les descendants de marrons. Ce sont les enfants même issus du groupe qui évangélisent. Et du coup, qui diabolisent les pratiques culturelles des anciens, en fin de compte. Bon, je pense que quelqu'un peut changer de religion, c'est sa vie, c'est sa manière d'être, de penser. Néanmoins, pourquoi criminaliser, pourquoi diaboliser la culture qui a fait, peut-être pas toi en tant que tel, mais tes parents, et dont il y avait une foi à l'égard. Donc ça aussi, c'est un élément qui perturbe, effectivement. Et en même temps, je pense aussi à l'urbanisation, le mode de vie de la ville, la télévision. Certes, ça permet l'ouverture d'esprit, etc. Mais ce sont des éléments qui ont perturbé un petit peu l'équilibre qui existait à l'intérieur de ces sociétés. Peut-être d'ici quelques années, il y aura cette adaptation parce que toute société s'adapte. Pour le moment, ce sont des sociétés en transition et donc en crise. Parce que même les autorités coutumières, par exemple le Gaaman, autorité spirituelle et temporelle, ben, les capitaines, eh bien, leur pouvoir s'affaisse. Koumanto Adjaé, Koumanto Adjaé. Nengre kondre kumanto ajae, kumanto ajae, kumanto
ajae, nengre kondre kumanto ajae. Je suis agréé par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale à animer des ateliers dans les écoles.
Carlos Adaoudé, artiste Tembe.
Donc ça me permet de partager la partie historique avec les enfants et à leur parler vraiment la langue, quelques mots, leur apprendre vraiment à soutenir leur culture, à être fier de leur culture à travers le Tembe. Voir là, quand je suis en exposition comme ça, les enfants ils se disent mais vraiment, on peut réussir là-dedans. Je me suis aussi donné l'objectif de numériser le Tembe, de leur permettre de voir qu'en fait, tu n'es pas obligé de tracer à Oukampa, mais tu peux très bien utiliser une tablette numérique pour tracer le Tembe. Tu peux très bien l'imprimer ou faire autre chose, tout en restant dans la continuité du Tembe, en fait. Et voilà.
C'est une volonté.
Shirley Abakamofu.
Mais c'est aussi de transmettre notre histoire, nos racines, parce que nous voyons que ça se perdait. Donc on commence vraiment à mettre en valeur notre travail et tout. Comme vous voyez la tenue que j'ai mis là, c'est un pagne banal, mais on l'a confectionné en robe pour qu'on puisse montrer que ce qu'on portait, on va dire, entre guillemets, vulgairement au village, qu'on peut le porter ailleurs aussi et de montrer la valeur aussi que nous tenons à notre culture, qu'on ne s'adapte pas seulement à la culture d'autrui, à l'ouverture vers l'Europe et tout, mais que quand nous allons en Europe, comme moi au jour d'aujourd'hui, là je suis à Paris, tous mes vêtements que j'ai emmenés ici, c'est que des confections de paille.
C'est une revendication donc.
Voilà, c'est pour se montrer, c'est pour s'affirmer que nous sommes là et nous voulons partager cela. Comme je dis toujours, pour savoir où l'on va, il faut déjà savoir d'où l'on vient.
Alors Jean Moumou, comment les Noirs Marrons tentent aujourd'hui de relancer cet attachement à leurs valeurs, à leurs traditions? Est-ce qu'il y a des nouvelles revendications?
Oui, les acteurs associatifs jouent un grand rôle dans la remise en scène du passé marron. Même les chanteurs, les artistes, eh bien, mentionnent cette histoire du marronnage. C'est par exemple Prince Colony, Mr Cool, ou encore le groupe qu'on appelle Wanton Melody à Papa Ishton. Il y a aussi l'écriture, comme Jesse Américain qui a écrit un roman sur le nègre marron. Donc, l'écriture, la musique, les acteurs associatifs, par exemple l'association Mama Bobby ou l'association Libinawang, ces acteurs-là jouent un rôle dans la transmission de ce savoir. Alors, l'autre revendication que je note de plus en plus, c'est cette espèce de honte qui se développe que les Bushinengue n'avaient pas. Certains vont dire, il ne faut plus nous appeler Bushinengue, parce que Bushinengue, ce sont des nègres de la forêt. Je dis, mais attendez. Donc des fois, j'essaie de réhistoriciser le mot. Ça n'a rien à voir avec une dimension péjorative. Les Marrons ont récupéré cette désignation avec fierté et ils ont combattu le colonisateur hollandais. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Et certains préfèrent, il faut qu'on nous appelle Afro-Américains ou Afro-Guyanais. Ce sont des personnes qui se chargent, donc je peux comprendre. Mais arriver à imposer cette idée à l'ensemble d'une communauté, là je suis un peu hésitant. Donc il y a ce combat-là qui se développe, et je sens à l'intérieur des sociétés Bushinengue, cette opposition entre blanc et noir, il n'y avait pas ça. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais aujourd'hui, je le sens.
Voilà. Est-ce qu'il faut redonner aussi une place plus importante aux Noirs marrons, c'est-à-dire une commémoration spécifique, par exemple, comme il en existe pour l'abolition de l'esclavage?
J'avais dit ça à l'époque où l'UNESCO parlait de la route des esclaves. Je dis, mais oui, mais je trouve que le marronnage reste en marge du processus. Mais effectivement, du côté de la France, si on essaie de mettre en évidence un moment phare qui rappelle cette histoire de ces sociétés-là, ça va donner plus de valeur, plus d'importance et de modèle pour les générations qui sont assignées à résidence et qui ont besoin peut-être de repères. Parce que les repères qu'ils ont, eh bien, ce sont ceux qui passent par le biais des médias, des réseaux sociaux, et je pense que ça reste fragile.
Les choses changent, ces communautés s'insèrent et interagissent de plus en plus, notamment dans une économie de marché.
Thomas Mouzard, co-commissaire de l'exposition Marronnage, l'art de briser ses chaînes.
Et donc là, on constate effectivement des spécialisations, la transmission de ces savoir-faire dans d'autres cadres qui se réinventent, notamment en milieu urbain. Antoine Dingyou transmet son savoir-faire dans les ateliers à Kourou. C'est lui aussi qui, en 1989, commence à peindre sur des toiles. Et donc, les choses changent très rapidement de génération en génération. Là, on s'aperçoit, à travers cette exposition, qu'on ne peut pas utiliser un seul qualificatif qui embrasserait tout ce qu'on a sous les yeux. Alors, donc, à nouveau, on montre qu'aujourd'hui, c'est très vivant, finalement. Et c'est en plein devenir.
Il faut faire connaître cette culture. C'est merveilleux de mettre une sculpture d'un marron sur une place publique, mais ça ne suffit pas.
Geneviève Wils, co-commissaire de l'exposition.
Maintenant, je crois qu'il est temps de parler du marronnage et des sociétés qui en sont issues. Alors on me dit, ah oui, c'est vrai, tiens, on avait oublié. Mais voilà, il ne faut pas oublier les Marmons. C'est une histoire extraordinaire. C'est un peuple qu'il faut mettre en valeur. Et il y a des bonnes raisons, parce que ce qu'ils font, c'est magnifique. Et donc, on doit leur rendre leur place. Pour eux-mêmes aussi, pour qu'ils se sentent à nouveau valorisés et qu'ils retrouvent l'honneur d'eux-mêmes.
Une dernière question, Jean Moumou. Vous-même, quand vous retournez à Bonnyville, qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Qu'est-ce que vous leur faites passer justement comme message?
On discute un peu d'histoire, leur montrer l'importance de se connaître, de connaître son histoire pour être équilibré. Je discute beaucoup avec les anciens aussi, parce que j'ai besoin de comprendre encore. Et les anciens qui maîtrisaient cette histoire nous quittent malheureusement de plus en plus. Donc ça, c'est fondamental. Et si on perd cette trace-là, c'est fini pour nous aussi. Parce que même s'il faut s'intégrer dans cette société guyanaise, il faut avoir tout de même sa part d'histoire. Hein, il ne faut pas s'oublier. Donc voilà, je discute avec les jeunes, je leur explique. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde où il faut, comme disait mon grand-père, avoir les outils. Hein. Nous sommes entrés dans une eau trouble et nous n'avons pas encore les outils. Et aujourd'hui, la ville arrive chez nous.
En conclusion, pour transmettre aux jeunes, c'est leur transmettre qu'il y a des passerelles, qu'il faut attraper ces passerelles entre les deux cultures, mais qu'il faut lâcher ni l'une ni l'autre.
Oui, c'est concilier les deux. Comme je disais à certains capitaines, la République ne va pas s'adapter aux sociétés bushinengue, c'est aux sociétés de s'adapter. Regardez, quand j'ai démarré mon enseignement, j'ai fait un grand colloque sur les marronnages et leur production sociale et culturelle dans les Amériques. Eh bien, c'était l'occasion pour moi d'inscrire ce que je voulais avec l'association APFAM. C'était d'inscrire l'histoire du marronnage bushinengue au sein de la grande histoire, d'une histoire globale. Ce n'est pas une petite histoire, ce n'est pas une parenthèse historique. Au contraire, c'est une grande histoire, comme l'histoire coloniale, comme l'histoire de l'esclavage. Donc, petit à petit, les choses vont changer. Les passerelles, c'est par le biais des associations, par le biais de l'école aussi, hein, dans la transmission des savoirs.
Et de ces expositions comme celle...
Et de ces expositions.
De l'Artembé.
C'est vrai, de l'Artembé. Parce qu'aujourd'hui, il y a le tourisme culturel. Donc, exposer cet art des marrons à la Maison de l'Amérique latine, et je remercie bien sûr Madame Geneviève Vielse, mais aussi Thomas Mouzard, d'avoir eu cette idée d'apporter la culture marronne à Paris. Et ça, cette valorisation-là permet bien sûr à ceux qui sont originaires de cette culture d'en être fiers.
Merci beaucoup, Jean Moumou.
Merci.
Cette chanson du groupe Wantong Melody de Papaichton, un village boni sur le fleuve Maroni, raconte la fin de l'esclavage. Katibo Kaba signifie l'esclavage terminé.
Katibo kaba o, katibo kabae. Katibo kabae, ma katibo no demo.
Katibo kaba o, katibo kabae.
Malisa fuli bikaba, duengi li bikaba no ma.
Katibo kaba o, katibo kabae.
Ufende mi fukafu, ina ofende mi eba.
Katibo kaba o, katibo kabae.
Mali katibo kabae, ma katibo no demo.
Katibo kaba o, katibo kabae.
Malisa fuli bikaba. Doing in Libicaba no ma.
Katibo kabao,
katibo kabae. Bale aine alibioye, ina opende mi kusafuba.
C'est la fin de cette émission consacrée aux Noirs Marrons de Guyane. L'exposition Marronnage, l'art de briser ses chaînes est à voir à la Maison de l'Amérique latine à Paris jusqu'au 24 septembre. La Marche du Monde vous était proposée cette semaine par Véronique Guémard, réalisée par Sophie Janin. Un épisode à retrouver sur le site RFI.fr, Twitter et Facebook. Réagissez, exprimez-vous. Cette émission, c'est la vôtre.